Bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir tous. Un homme était en train de nettoyer ses gouttières, debout sur une très grande échelle, quand sa femme est sortie et lui a dit, Chérie, cette échelle n'a pas l'air très stable. Il lui a rétorqué, Je sais ce que je fais. Quelques minutes plus tard, sa femme lui a dit, Je ne sais pas, on dirait que cette échelle va glisser. Et il a répondu, J'ai déjà fait cela 1000 fois. Finalement, sa femme dit, Tu sais quoi? Pourquoi tu ne descends pas pour rapprocher un peu l'échelle avant de tomber? Il lui répond, Ça va. Environ 30 secondes plus tard, l'échelle tombe. Le mari dégringole et atterrit dans un buisson. Sa femme accourt, Ça va? Il lève les yeux et marmonne. Comme je l'ai dit, l'échelle est en bon état. Mes frères, nous connaissons tous des gens têtus. En fait, ceux d'entre nous qui sont têtus n'ont peut-être pas compris cette blague, mais nous connaissons tous des gens têtus. Ça peut être un enfant, un conjoint, un collègue, ou même la personne qui nous regarde dans le miroir. Les êtres humains ont une résistance remarquable aux instructions et aux conseils. Voici un dicton, il y a deux types de personnes. Celle qui lit très attentivement les instructions lorsqu'elle monte un meuble, et celle qui a un tiroir rempli de vie en trop. Un tiroir rempli de vie en trop. C'est mieux quand ils comprennent bien la chute, mais nous sommes tous confrontés à notre capacité à être têtus. C'est quelque chose contre quoi nous devons tous lutter, et nous pouvons rire et nous en amuser, mais la Bible est en réalité très sérieuse sur le sujet de l'entêtement. En fait, ouvrons le livre de 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. La Bible est très sérieuse lorsqu'il s'agit d'entêtement. C'est un récit bien connu. C'est l'histoire de Saül et de Saül confrontés à Samuel. Nous pouvons descendre au verset 22, 1 Samuel 15, verset 22, et reprendre le contexte, 1 Samuel 15, 22. Et Samuel dit, L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Saül n'a pas suivi les instructions telles qu'elles lui avaient été données. Voici, le vieux Samuel poursuit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Maintenant, cette partie du verset me frappe toujours. On se dit, bon, la rébellion, la sorcellerie. Ouah, c'est une sacrée comparaison. Et on en parle souvent, on prêche même des sermons à partir de cette phrase. Mais si on continue, il est dit, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Ça fait un peu mal passer. L'entêtement est comparé à l'iniquité et à l'idolâtrie. L'iniquité et l'idolâtrie sont deux choses très, très mauvaises, deux de ces choses qui, surtout quand on lutte contre l'entêtement comme nous le faisons tous, nous font nous tortiller un peu sur notre siège. Oh là là! Quand je suis têtu, Dieu dit que c'est comparable à l'iniquité et à l'idolâtrie. Pourquoi Dieu fait-il une comparaison aussi forte? Surtout avec quelque chose comme l'entêtement. Nous pouvons tous devenir têtus, nous enfoncer dans certaines positions. Pourquoi Dieu fait-il une comparaison aussi forte? Qu'est-ce qui rend l'entêtement spirituellement dangereux? Quand la détermination et la conviction deviennent-elles de l'entêtement et un campement sur ses positions? Êtes-vous simplement campé sur vos principes? Non, vous êtes simplement campé sur vos positions, vous êtes entêté. Comment pouvons-nous rester ferme sur quelque chose, rester ferme, sans pour autant aller jusqu'à devenir entêté? Comment pouvons-nous faire la différence? Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre l'entêtement pécheresse et la fermeté pieuse. Il y a une différence. Je vais le répéter. Nous allons apprendre la différence entre l'entêtement pécheresse et la fermeté pieuse, et comment rester ferme tout en restant ouvert à l'enseignement, malléable et facile à guider par Dieu. C'est possible. J'aime souvent commencer mes messages en définissant mon sujet. C'est bien pour nous d'être tous sur la même longueur d'onde, de comprendre tous de quoi nous parlons. Et nous avons tous une assez bonne idée de ce qu'est l'entêtement, surtout pour avoir probablement été têtu une fois ou deux dans la vie. Mais une personne têtue, telle qu'elle est définie ici, une personne têtue est déterminée à faire ce qu'elle veut et refuse de faire quoi que ce soit d'autre. Une personne têtue, si vous prenez des notes, une personne têtue est déterminée à faire ce qu'elle veut et refuse de faire quoi que ce soit d'autre. Les personnes têtues résistent à la correction, résistent au changement, sont mues par leur propre volonté, difficiles à guider, et elles refusent de céder. Or, l'entêtement, comme je l'ai évoqué dans ma déclaration précédente, l'entêtement est différent du fait d'avoir de la force et des convictions sur quelque chose, ou bien il est différent de la persévérance. Cela peut sembler un peu lié, mais ces deux choses sont très différentes. L'entêtement, c'est refuser de céder même lorsque céder est nécessaire, lorsque céder est la meilleure voie. Bien que céder soit la meilleure voie, une personne entêtée refuse de céder. Une grande différence. Une grande différence. Peut-être commençons-nous à comprendre pourquoi Dieu a comparé l'entêtement à deux accusations très graves, l'iniquité et l'idolâtrie. Je tiens à être très clair, il n'y a rien de mal à être inébranlable et ferme. Il n'y a rien de mal à avoir des convictions. Nous devrions tous avoir nos propres convictions. Nous devrions tous défendre quelque chose. Il y a un dicton qui dit que si l'on ne défend rien, on se laissera séduire par n'importe quoi. Vous l'avez probablement déjà entendu. Nous devons tous être prêts à défendre quelque chose et à être fermés convaincus à ce sujet, mais il y a une grande différence entre cela et l'entêtement. Allons à Jérémie 18, verset 2. Nous allons lire le passage sur le potier et l'argile. Jérémie 18, verset 2, dit « Lève-toi, c'est Dieu qui parle à Jérémie, lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis donc descendu à la maison du potier, et voici, il travaillait sur le tour. Il s'approche donc de la maison du potier. Le potier est occupé, il fait ce que font les potiers. Il travaille l'argile sur le tour. L'argile tourne et il la façonne et la modèle. Nous avons un potier parmi nous. Je suis sûr que le regarder travailler est quelque chose d'intéressant à observer. Mais il est dit qu'il est descendu et qu'il a vu le potier à l'œuvre, au verset 4, et que le vase qu'il avait fait d'argile était abîmé, il était défiguré entre les mains du potier. Alors, qu'a-t-il fait? Il en a refait un autre. Le premier vase s'était donc abîmé. Il n'avait pas tout à fait la forme qu'il voulait. Il en a donc refait un. Et cette fois, il est dit que cela plut au potier de le refaire. La deuxième fois, il réussit. Le récipient eut finalement la forme qu'il souhaitait. Vous avez donc maintenant cette illustration dans l'esprit de Jérémie. Puis la parole du Seigneur me fut adressée, disant, « Aux maisons d'Israël. Nous passons donc d'un pot, à un pot d'argile, à la maison d'Israël. Ne puis-je pas agir avec vous comme ce potier, dit le Seigneur? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, aux maisons d'Israël. » Quelle illustration remarquable, vraiment remarquable. Vous voyez ce potier travailler, travailler et travailler l'argile. Il a même eu un peu de mal avec elle, apparemment, car elle s'est abîmée. Mais la deuxième fois, il l'a travaillée et elle a pris forme. Dieu dit, « Regarde, Jérémie, ce pot en argile, c'est la maison d'Israël. Je peux travailler avec cela. Je peux le modeler. Je peux lui donner forme. C'est une illustration parfaite de mon propos. Un vase d'argile est d'abord mou. Il est très malléable. Il est facile à façonner. Mais que se passe-t-il finalement? Il durcit. Il durcit pour prendre la forme que le potier avait prévue pour lui. Frères et sœurs, il n'y a rien de mal à être ferme. Il n'y a rien de mal à avoir des convictions. Mais l'essentiel, c'est que nos convictions et notre fermeté viennent au fur et à mesure que Dieu nous façonne. Lorsque nous sommes façonnés pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons, c'est là qu'il est bon d'être ferme, c'est là qu'il est bon d'être endurci. C'est là que tout va bien. Mais si nous commettons l'erreur de nous endurcir avant que Dieu ait fini de nous façonner, avant d'être façonnés pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons, c'est là que nous rencontrons des problèmes. Si nous nous endurcissons trop tôt, le potier n'est plus en mesure de nous façonner. Nous sommes durs. Oui, il y a un temps pour être ferme, mais mes frères, il y a aussi un temps pour être malléable, modelable et facile à travailler. Les personnes spirituellement mûres ne sont pas rigides lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Les personnes spirituellement mûres ne sont pas têtues quand il s'agit des choses de Dieu. Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Le danger de l'entêtement commence lorsque notre volonté propre nous endurcit avant que Dieu n'ait fini de nous façonner, ou même alors que Dieu est en train de travailler sur nous. On a presque l'impression que la seule façon de travailler avec une personne endurcie qui n'est pas encore tout à fait finie, c'est de faire quoi? Il faut la briser et recommencer à zéro. Aucun d'entre nous ne souhaite clairement cela, surtout lorsqu'il s'agit d'être de l'argile entre les mains de Dieu. Revenons maintenant en arrière pour y jeter un œil. Revenons à 1 Samuel 15. Revenons pour voir ce qui a conduit Samuel à comparer l'entêtement à l'iniquité et à l'idolâtrie. 1 Samuel 15, c'est le même récit, mais nous allons l'approfondir un peu pour bien comprendre. 1 Samuel 15, nous commencerons au début du chapitre. Et Samuel dit encore à Saül, « C'est le Seigneur qui m'a envoyé pour toindre roi sur ce peuple, sur son peuple, sur Israël. » Dieu est donc le roi suprême d'Israël, mais il a envoyé Saül pour être roi à sa place, pour être en fait le représentant de Dieu. Maintenant donc, écoute ou prête l'oreille à la voix des paroles du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées, je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il l'a guetté sur le chemin lorsqu'il montait d'Égypte. Dieu se souvient de la manière dont les Amalécites ont maltraité Israël et maintenant, Dieu allait s'en occuper. Et il allait utiliser Saül et tout le peuple pour s'en occuper. Verset 3, « Va maintenant, frappe Amalek et détruis tout ce qu'il possède. Ne les épargne pas. » Ce mot « épargner » est significatif, « ne les épargne pas, mais tue hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Les instructions étaient très claires. « Je ne veux que tu n'épargnes personne. Voici ce que je veux que tu fasses, cet homme représente Dieu et le jugement de Dieu. Voici ce que je veux que tu fasses. » S'il n'était pas clair, il n'a posé aucune question, ni dit, « Dieu, je ne suis pas sûr, est-ce vraiment ce que tu veux que je fasse ?» Les instructions ont été données et les instructions ont été reçues, ou du moins rien n'indiquait qu'elles ne l'avaient pas été versées 7, et Saül fit ce qu'il devait faire, il frappa les Amalécites. D'accord, c'est un bon début, cela fait partie de ce qu'on lui avait ordonné de faire. Il frappa les Amalécites depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Puis il fit prisonnière Agag, le roi des Amalécites. Il épargna le roi. Il le fit prisonnier et détruisit totalement tout le peuple par le tranchant de l'épée. Mais Séhu et le peuple épargnèrent, voyez ce terme-là, épargnèrent. Dieu lui avait dit de ne pas épargner, mais il épargna. Séhu et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que le meilleur des brebis, des bœufs, des bêtes grasses, des agneaux et tout ce qui était bon, et ils ne voulurent pas les détruire complètement. Mais tout ce qui était vil et de rebut, ils le détruisirent complètement. Où était l'obstination là-dedans? Pour certains, cela peut crier au scandale. Où était l'obstination là-dedans? Séhu a substitué son propre jugement à celui de Dieu. Dieu lui a dit quoi faire, il lui a donné des instructions. C'est Dieu qui jugeait les Amalécites. Il a dit à Séhu comment s'y prendre. En tant que chef d'Israël, il représentait Dieu. Il lui a dit quoi faire. Séhu n'a pas suivi ses instructions. Il a substitué son propre jugement à celui de Dieu. Rappelez-vous qu'il est dit que Séhu et le peuple ont épargné Agag. C'était à Dieu de déterminer qui devait être épargné et qui ne devait pas l'être. Dieu a dit, n'épargne rien, mais Séhu a dit, non, je vais épargner. C'est moi qui décide qui est épargné et qui ne l'est pas. La décision de Dieu était de ne pas épargner. La décision de Séhu était d'épargner. Les instructions de Dieu étaient claires. Séhu a décidé de les modifier. Les instructions n'ont pas été mal comprises. Elles étaient très claires. Mais Séhu pensait essentiellement que sa version, sa façon de gérer la situation, était meilleure. Ma façon est meilleure que la tienne, Dieu. Il ne l'a pas dit, mais c'est ce qu'il a fait. Ses actes en disaient plus long que ses paroles. C'est de l'entêtement. C'est être têtu. C'est camper sur ses positions. L'entêtement apparaît lorsque les gens modifient ce que Dieu attend. Ils savent ce que Dieu attend, ils lisent ce qu'il attend, on leur dit ce qu'il attend, mais ils le modifient. Eh bien non, je vais le faire à ma façon. D'accord, je vais faire la majeure partie, mais je vais faire le reste à ma façon. Frères et sœurs, c'est cela être têtu, c'est cela s'obstiner, c'est une forme d'idolâtrie très grave, très grave. En quoi est-ce de l'idolâtrie quand nous nous obstinons contre certaines choses? C'est nous qui prenons la place de Dieu, en fait, nous nous asseyons sur le trône de Dieu et décidons que nous savons ce qui est le mieux dans telle ou telle situation. C'est extrêmement, extrêmement grave, très, très grave. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose à la place de Dieu. Nous savons ce qu'est une idole, ce devant quoi les gens se prosternent. Elles sont faites de bois, de pierre et de métal. Je veux dire que les gens se prosternent devant des idoles. Nous savons tous ce qu'est une idole. Une idole, c'est substituer ou mettre quelque chose à la place de Dieu, n'est-ce pas? Cela ne compte-t-il pas si nous nous mettons à la place de Dieu? Nos décisions à la place de celles de Dieu, n'est-ce pas une forme d'idolâtrie selon les Écritures? C'est certainement de l'idolâtrie. Une personne obstinée finit par se mettre, et parfois se place, sur le trône de Dieu. Je sais que cela semble grave, du genre waouh, j'étais juste un peu têtu à ce sujet, je ne pensais pas que j'étais comme un idolâtre. Je ne pensais pas que c'était si grave. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Et qu'en est-il de l'iniquité? Rappelez-vous, c'est l'iniquité et l'idolâtrie. Verset 13 1 Samuel 15, 13. Samuel 20 vers Séhu, et Séhu lui dit, « Que le Seigneur te bénisse. » Séhu était de très bonne humeur. « Salut, Séhu, comment cela va ?» Ou « Salut, Samuel, comment cela va ?» Il se sent bien. « J'ai accompli le commandement du Seigneur. » Tu ne le sais pas? Sayu était dans l'illusion. Il était dans l'illusion. Continuons à lire. Et Samuel dit, que signifie donc ce bruit de mouton qui saigne à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Tu as tué tous les animaux, et pourtant j'entends les moutons saigner et le bœuf mugir. De quoi parles-tu? Tu as obéi à la voix du Seigneur. Saül était dans l'illusion. Il était orgueilleux, oh oui, et, Saül, comment cela va? J'ai fait exactement ce que Dieu m'a dit de faire. Eh bien, Saül, pas du tout ébranlé. Verset 15. Saül dit, ils les ont rapportés des Amalécites, car le peuple a épargné les meilleurs moutons et bœufs. Oh là là, le jeu des reproches, c'est reparti. Ils les ont rapportés des Amalécites, le peuple a rapporté les moutons et les bœufs pour les sacrifier et les offrir au Seigneur. Nous les avons probablement gardés en vie parce que nous allons les sacrifier au Seigneur, nous allons les tuer exactement comme tu l'as dit, mais tu sais, nous avons gardé les meilleurs d'entre eux pour les sacrifier au Seigneur. Il est dans l'illusion, et le reste, nous l'avons complètement détruit. Bien qu'il ait été pris la main dans le sac, les brebis saignent, les bœufs mugissent, mais au lieu de l'admettre, il s'est entêté, il s'est retranché, oh non, non, nous avons fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire, frère. L'iniquité est comparée à être tordu, ou non, pensez à un bâton qui est juste, tordu. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit comme il devrait l'être. L'entêtement nous empêchera d'être droit. Il nous rendra tordus. Nous nous enfoncerons tellement, même si nous savons que ce n'est pas la bonne voie à suivre, nous nous y tiendrons. Pourquoi? Parce que nous sommes têtus, nous faisons preuve d'entêtement, nous sommes campés sur nos positions à ce sujet. C'est un sujet lourd, cela l'est, c'est lourd. C'est un sujet lourd. J'ai essayé de commencer par une blague. Ça n'a pas vraiment marché, mais j'ai essayé. Je savais où je voulais en venir. Je savais que cela allait être un peu lourd. Mais, bien sûr, mes frères, c'est pour notre bien, et cela va s'améliorer un peu. Mais l'iniquité, c'est être tordu, déformé et faussé. L'entêtement peut fausser notre façon de penser. Nous ne voyons pas les choses comme nous devrions les voir, parce que nous sommes campés sur nos positions, nous sommes têtus. Plus nous résistons à la correction, plus notre point de vue devient faussé. Plus nous résistons à la correction, je le répète, plus notre jugement devient faussé. Saül s'est justifié. Il a rejeté la faute sur les autres. Au lieu d'obéir, il s'est obstiné à faire les choses à sa manière. Il pensait que sa manière était la meilleure. L'entêtement est une iniquité et une idolâtrie. C'est très grave. Et ce qui est effrayant, c'est que l'entêtement peut souvent se dissimuler. Vous savez, Saül était tout simplement ouvert, et d'une obstination pure et simple. Il a été interpellé par Samuel. Il était beaucoup plus ouvert, mais l'obstination peut parfois se dissimuler. Nous ne la reconnaissons pas toujours. Ouvrez à Jonas. Ouvrez le livre de Jonas. Très bien, nous allons commencer au début de Jonas. Nous connaissons tous Jonas. C'est un personnage familier ici. Jonas 1, verset 1. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amitai ou d'Amital, en ces termes, « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Tout comme Saül, Jonas fut envoyé et on lui demanda de suivre une série d'instructions. Or, nous savons que Jonas n'était pas d'accord avec ce que Dieu faisait. Il avait de meilleures idées, il avait une autre façon de gérer la situation. Alors il s'enfuit. Nous sommes tous passés par là, vous pas vraiment envie de faire quelque chose, et on part comme si la personne ne nous voyait pas s'enfuir. Jones s'enfuit donc. Il se dit, bon, je peux échapper à Dieu. Qui sait? Peut-être pensait-il que Dieu changerait d'avis, peut-être que Dieu se dirait, oh là là, il ne veut vraiment pas faire cela, il s'enfuit. Bon, d'accord, j'ai changé d'avis. Jones décida de s'enfuir. Il finit par monter à bord d'un navire. Donc il s'enfuit, il monte sur ce bateau, et il va juste, je suppose, s'enfuir en mer jusqu'à ce que, d'une manière ou d'une autre, Dieu ne le trouve pas ou ne le voit pas. Je ne sais pas, rappelez-vous, l'entêtement rend délirant, mais je ne veux pas aller trop vite. Donc, il est monté à bord d'un navire, et il voulait s'éloigner de Dieu, et les hommes à bord, ils savaient mieux que lui, et ils avaient peur, et le voyage n'était pas tranquille. C'était très agité, et les hommes ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Ce type à bord nous cause beaucoup de problèmes. Et si on ne se débarrasse pas de lui, on va tous couler. Alors, qu'ont-ils fait? Ils l'ont jeté par-dessus bord. Jonas, que s'est-il passé? Il s'est retrouvé à l'intérieur d'un poisson. Verset 17. Jetez-y un œil. Or, le Seigneur avait préparé un grand poisson. C'est intéressant, préparer un poisson. Dieu savait ce qui se passait. Il est dit que Dieu avait préparé un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et à l'intérieur du poisson, il a vécu des expériences assez intéressantes. Il a eu l'occasion de réfléchir à tout ce qu'il avait fait. Verset 2, ou pardon, chapitre 2, verset 10. Après 3 jours et 3 nuits, le Seigneur parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Maintenant, Jonas est de retour, les pieds sur la terre ferme. Il peut à nouveau respirer. Ça sent probablement bien meilleur qu'au cours des 3 jours et 3 nuits précédents. On pourrait donc penser que son esprit est clair. J'ai vu la lumière, littéralement. Le poisson l'a recraché. Jonas semblait prêt à obéir. Il a couru, s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, il en a été recraché, il a une nouvelle perspective, il voit les choses un peu différemment. Il est allé à Ninive, il a fini par se rendre à Ninive comme on le lui avait initialement demandé. Chapitre 3, verset 10. Que s'est-il passé après qu'il était allé faire ce qu'il était censé faire dès le départ? Et Dieu vit leurs œuvres, en référence aux Ninivites, qu'ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait, et il ne le fit pas. Mission accomplie. Jonas est allé prêcher à Ninive, les gens se sont repentis, ils ont écouté, ils n'étaient pas aussi têtus que Jonas. Ils ont écouté et Dieu a fini par épargner la ville. Quelle a été la réaction de Jonas? J'ai obéi à Dieu, cela m'a pris un certain temps, mais j'ai fini par comprendre, telle a été sa réaction. Chapitre 4, verset 1. Or, Dieu venait d'épargner Ninive, n'est-ce pas? Ils se sont repentis, ils ont écouté Dieu. Quelle a été la réaction de Jonas? Mais cela déplut à Jonas. Il n'aimait pas cela. Il n'aimait pas le fait que Dieu ait épargné cette ville. Cela déplaisait à Jonas. Cela déplaisait énormément à Jonas. Il était très en colère. J'ajouterai qu'il était très têtu. Rappelez-vous, il ne voulait pas que les Ninivites continuent. Il ne voulait pas qu'ils continuent parce qu'il savait, Jonas savait tous les problèmes qu'il causait aux Israélites. Il ne voulait pas qu'ils soient épargnés. Il voulait que Dieu les détruise. Jonas avait un autre plan. Il était très en colère. Et il pria le Seigneur, et dit, « Je t'en prie, ô Seigneur, n'est-ce pas ce que j'avais dit qui allait arriver ? C'est ce que cela signifie. N'est-ce pas ce que j'avais dit ? N'est-ce pas ce que je t'avais dit qui allait arriver ? En tant qu'homme audacieux, peut-être un homme insensé, je ne sais pas. N'est-ce pas ce que j'avais dit qui allait arriver ? Quand j'étais encore dans mon pays, c'est pourquoi je me suis enfui auparavant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et d'une grande bonté, et que tu te repensais du mal. C'est une prière bizarre. Je savais que tu étais miséricordieux. Quoi ? Eh bien, j'espère que tu es toujours miséricordieux alors que je te réponds avec insolence. Je savais que tu étais miséricordieux, lent à la colère et d'une grande bonté, et que tu te repentais du mal. Maintenant donc, ô Seigneur, je t'en supplie, prends ma vie, car il vaut mieux pour moi mourir que de vivre. D'accord, tue-moi. Oui, il en fait des tonnes. Mais il est aussi têtu. Il l'a caché. Une fois que le poisson l'a recraché, il est allé à Ninive. Il a fait ce qu'il était censé faire. Mais dans son cœur, il résistait encore. Une fois que Dieu l'a fait, une fois que Dieu a épargné la ville, que s'est-il passé? Ce qu'il y avait dans son cœur, cette obstination, cette résistance, tout cela a refait surface. Mes frères, c'est ce qui fait parfois peur. En apparence, nous pouvons sembler très dociles. Fais ceci, oh, pas de problème, bien sûr, à quelle vitesse veux-tu que je le fasse? Je vais le faire, pas de problème, mais à l'intérieur, je savais que ce n'était pas la meilleure façon de faire, et cet homme disait cela à Dieu. Mais nous sommes tous passés par là, nous avons tous été têtus, nous nous sommes tous retranchés. Une personne peut se montrer docile en apparence tout en restant tout aussi têtue à l'intérieur. Frères et sœurs, pourquoi les êtres humains, pourquoi sommes-nous, en tant qu'êtres humains, si naturellement enclins à l'entêtement? Ouvrez votre Bible au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Pourquoi est-ce si facile, ou peut-être devrais-je dire autrement, pourquoi est-ce si facile d'être têtu, et si difficile de ne pas l'être? Romains chapitre 8, verset 7, verset à mémoriser, car l'esprit de la chair, l'esprit charnel, c'est-à-dire l'esprit qui n'est pas guidé par l'esprit de Dieu, est un esprit charnel ou spirituel. L'esprit charnel est inimitié, ou hostile, envers Dieu, car il ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut d'ailleurs pas. Ce verset dit-il donc que cet esprit charnel, hostile à Dieu, n'est pas soumis à la loi de Dieu, mais qu'il ne peut en réalité pas l'être? Il ne le peut pas. Lorsque nous nous trouvons hostiles envers les choses de Dieu, non conformes à la loi de Dieu, reconnaissons, à tout le moins, où nous en sommes. Je suis charnel en ce moment. J'ai un esprit charnel. Ne nous leurrons pas en pensant, « Oh, tout va bien. Je suis spirituel. » Non. Non. Nous sommes charnels. L'esprit charnel lutte. Il est hostile à Dieu et à son dessein. C'est pourquoi il est si facile d'être têtu, de camper sur ses positions, de ne pas céder même si nous savons que céder est la meilleure chose à faire. Jérémie 17, Jérémie 17 verset 9. Jérémie 17 verset 9, un autre verset à mémoriser, mais je pense qu'il répond très bien à cette question, pourquoi est-il si facile d'être têtu, ou pourquoi les êtres humains sont-ils naturellement têtus? Jérémie 17 verset 9, le cœur est trompeur, va vous tromper. Le cœur va vous tromper. Le cœur, mon cœur, va me tromper. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Cela ne cesse de m'étonner quand je m'arrête pour vraiment réfléchir, lire et méditer. Vous savez, nous avons parlé de la méditation il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Le cœur est trompeur par-dessus tout, désespérément mauvais. J'imagine cette personne piégée, qui se débat désespérément pour s'échapper. Qui peut le connaître? Comme le dit le verset, mes frères, c'est notre cœur. Nos cœurs sont trompeurs. Non seulement ils sont désespérément méchants, mais ils nous font croire que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est pire, qu'ils vous trompent ou qu'ils soient désespérément méchants? Je veux dire, parlons d'une mauvaise connexion ou d'une mauvaise combinaison. C'est une meilleure façon de le dire, c'est une mauvaise combinaison. Non seulement il est désespérément méchant, mais en plus, il vous trompe. Je vais bien, tout va bien, je ne suis pas trompé, mais vous l'êtes. La nature humaine, c'est tout ce que cela décrit, c'est tout ce que disent Romains 8 et Jérémie 17 verset 9. Ils ne font que décrire la nature humaine. Nous savons à qui appartient cette nature, c'est la nature humaine, certainement pas celle de Dieu, c'est la nature de Satan. La nature humaine est la nature de Satan. Nous avons tous entendu cela, mais la nature humaine est la source, où c'est de là que vient l'entêtement, c'est de là que vient notre obstination, cela fait partie de la nature humaine. La nature humaine veut le contrôle, l'autonomie et l'autodétermination. C'est moi qui décide de la direction que nous allons prendre. Les éléments qui contribuent à l'entêtement sont l'orgueil. Je ne veux pas admettre que j'ai tort. La peur. Changer ou écouter quelqu'un. Cela me met mal à l'aise. Je n'y suis pas habitué. Cela fait partie de ce qui alimente l'entêtement. L'ignorance, une personne entêtée peut sincèrement croire qu'elle détient les faits et qu'elle a raison, mais elle est ignorante, elle ne sait pas. Camper sur ses positions. Ne voit-il pas ce bus qui fonce droit sur lui? Je vais bien. Je ne me rends pas compte que je suis en danger. Cela peut aussi alimenter l'entêtement. L'attachement émotionnel. Mes frères, lorsque nous nous attachons à certaines choses, nous nous attachons à ce qui nous est familier. Nous nous attachons à nos propres opinions. Nous sommes attachés à la façon dont nous aimons faire les choses. Tellement attachés que nous refusons de lâcher prise quand nous le devrions. Un autre facteur contribuant à l'entêtement est tout simplement l'obstination pure et simple, c'est ma façon de faire, pas la tienne, ma façon, mon timing, ma préférence. Frères, nous luttons tous contre l'obstination. Nous luttons tous contre l'obstination à un degré ou à un autre. Nous luttons tous contre elle. C'est l'obstination qui refuse de céder. Vous voudrez peut-être noter cela, l'obstination, c'est l'obstination qui refuse de céder. Elle a une emprise mortelle, elle ne lâchera pas prise, je ne céderai pas. La Bible utilise des images assez frappantes pour décrire ce genre de pensée. Ouvrez votre Bible au chapitre 9 du Deutéronome. Le chapitre 9 du Deutéronome, la Bible est très imagée, elle a des images très intéressantes pour décrire cette obstination. Deutéronome, chapitre 9, verset 6. Deutéronome, chapitre 9, verset 6. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour en prendre possession, car tu es un peuple coureur. Au coureur. J'aime bien, c'est juste un mot tellement drôle, on pense à un coureur, je ne sais pas si c'est comme un culturiste qui a un cou vraiment très épais, vous voyez, c'est difficile pour lui de tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Il a juste le cou raide, je suppose, par opposition à un cou souple, mais ce peuple est qualifié de peuple au cou raide. De qui s'agit-il? Revenons à l'Exode. L'Exode. J'espère que votre cou n'est pas trop raide pour que vous puissiez baisser les yeux sur vos Bibles et trouver où nous allons. Exode chapitre 33, Exode 33 verset 5, de qui parle-t-on en disant Steve Neck? Car le Seigneur, Exode 33 verset 5, car le Seigneur dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël. Bon, nous savons donc à qui nous nous adressons. Dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Oh là là, Dieu a vraiment le don d'attirer votre attention, n'est-ce pas? Israël, les enfants d'Israël sont qualifiés de au cou raide. Parmi tous les peuples du monde à cette époque, il y avait des gens partout dans le monde, une population nombreuse, des gens partout. Dieu regarde ces gens et dit, vous êtes au cou raide, vous êtes un peuple au cou raide. Quelle image, quelle image. Au cou raide. Le concept vient d'un animal. Bien sûr, c'était une société agraire à l'époque. Ils avaient des ânes, des bœufs, et ces animaux auxquels on mettait un joug sur le cou ou une laisse, et, bien sûr, on sortait avec l'animal, peut-être pour labourer les champs, et on essayait de faire aller l'animal dans une certaine direction. Vous savez, vous tirez d'un côté, et l'animal va d'un côté, ou vous tirez de l'autre côté, et l'animal va de l'autre côté. Eh bien, certains animaux avaient le cou raide. Vous tiriez dessus pour qu'ils aillent d'un côté, et ils ne voulaient tout simplement pas y aller. Ils ne voulaient pas y aller. Et là, vous ne pouvez pas faire ce pourquoi vous vous êtes levé si tôt le matin. L'animal ne coopère pas. Cet animal est têtu, difficile à déplacer, difficile à contrôler. Très difficile à manier. Il résiste au virage ou à la direction. Un animal têtu refuse ou lutte contre la traction de son maître. Vous voyez où cela mène. Vous êtes un peuple au cou raide, Israël. Ils ont refusé ou ont rendu difficile de tourner et d'aller dans la direction que Dieu voulait qu'ils prennent. C'est une image très, très forte quand on parle d'entêtement et qu'on pense à l'entêtement. Un animal au cou raide est difficile à guider et se débat contre le joug. Ils se débattent contre lui. Donc, non seulement il est difficile de le tirer dans une direction, mais en plus il se débat et essaie d'aller dans une autre direction. Vous le tirez et il essaie d'aller ailleurs. Vous le tirez et il, je suis sûr que c'était extrêmement frustrant. C'est ainsi que les enfants d'Israël étaient qualifiés. Frères et sœurs, qui sommes-nous? Que sommes-nous? Nous sommes des Israélites spirituels. C'est intéressant. Nous sommes des Israélites spirituels. Sur le plan spirituel, l'entêtement et la résistance à Dieu lorsqu'il tente de nous guider, c'est aussi avoir la nuque raide. Lorsque Dieu nous tire dans une direction ou nous pousse dans une autre, non seulement nous ne nous soumettons pas et ne suivons pas son chemin, mais nous luttons contre la direction qu'il veut prendre. C'est là que nous sommes spirituellement à la nuque raide, spirituellement entêtés. Mais j'ai dit que j'avais quelques nouvelles, ou que les choses allaient s'améliorer un peu, j'ai des nouvelles encourageantes. Du genre, Monsieur Wingfield, vous nous mettez à rude épreuve aujourd'hui. Que se passe-t-il? J'ai des nouvelles très encourageantes, surtout si vous devez lutter contre votre entêtement comme nous tous. Surtout si vous devez lutter individuellement contre cela comme nous tous, j'ai de très, très bonnes nouvelles pour vous. Dieu est spécialisé dans le travail avec les gens têtus. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est spécialisé dans le travail avec les gens têtus. En fait, il a choisi de travailler avec les gens têtus. Est-ce que l'un d'entre nous choisirait de travailler avec une personne têtue? Je ne sais pas si je suis assez spirituel ou pieux pour cela. Vous savez quoi? Qui est la personne la plus têtue ici? Je veux travailler avec elle. Non, non. Dieu est spécialisé dans le travail avec les personnes têtues. En fait, c'est ce qu'il a choisi de faire. Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. En tant que médecin, c'est en fait une bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Surtout si, en arrivant ici, vous, comme moi, voyez certains domaines sur lesquels travailler. C'est une excellente nouvelle. Deutéronome, chapitre 7, verset 8. Deutéronome, chapitre 7. Vous savez quoi? Commençons au verset 7. Deutéronome 7, 7. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel vous a aimés et vous a choisis. C'est un verset très utile. Les gens se demandent, d'accord, les enfants d'Israël sont le peuple élu de Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie? Ce que nous lisons ici, c'est que Dieu ne vous a pas aimé ni choisi parce que vous étiez plus nombreux que n'importe quel autre peuple. Dieu n'a pas choisi les Israélites simplement parce qu'ils étaient si nombreux. Vous étiez les moins nombreux de tous les peuples. Vous étiez minuscules. Vous étiez petits. Alors pourquoi les a-t-il choisis? Mais parce que le Seigneur vous aimait, et parce qu'il voulait respecter le serment qu'il avait fait à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir d'une main puissante et vous a racheté de la maison de servitude, ou de l'esclavage, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Dieu a choisi Israël. Il a choisi Israël parmi tous les autres peuples de la planète. Il a bel et bien choisi Israël. C'est ce peuple que je veux. C'est le peuple sur lequel j'ai porté mon amour. Ce sont les gens avec qui je veux travailler. Maintenant, vous vous demandez peut-être, Dieu savait-il dans quoi il s'embarquait? Allons au chapitre 9 du Deutéronome. Juste quelques chapitres plus loin. Peut-être que Dieu ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Vous savez, j'adore juste cette toute petite nation. J'ai tellement de peine pour eux. Peut-être que Dieu ne savait pas dans quoi il s'embarquait. On peut se le demander. Nous l'avons déjà lu en quelque sorte, mais relisons-le. Deutéronome 9, verset 6. Sachez donc que ce n'est pas à cause de votre justice que l'Éternel, votre Dieu, vous donne ce bon pays pour en prendre possession. Je ne vous donne pas ce pays. Je ne vous promets pas ce pays parce que vous êtes si juste, parce que, vous savez, vous êtes tout simplement comme cela, vous faites tout si bien. Dieu ne leur donne pas ce pays parce qu'ils sont justes, car vous êtes un peuple aux coups raides. Dieu savait dans quoi ils s'embarquaient. Verset 13. De plus, le Seigneur m'a parlé, en disant, « J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple aux coups raides. Ces gens sont très difficiles à gérer, et pourtant Dieu les a choisis quand même. Dieu est spécialisé dans le travail avec les gens têtus. Maintenant, une partie de moi ne veut pas que vous lisiez le verset 14. Vous pouvez y jeter un œil, mais, non, non, sautons cette partie. C'est la réaction de Dieu face à leur obstination. Bon, je ne peux pas m'en empêcher, je vais le lire, laissez-moi faire, afin que je les détruise et que j'efface leur nom de sous les cieux. Et je ferai de vous une nation plus grande, une nation plus puissante, plus grande encore qu'eux. Même Dieu peut parfois être exaspéré par les gens obstinés. Je ne veux donc pas que quiconque sorte d'ici en se disant qu'il faut être têtu pour que Dieu puisse travailler avec moi, pour que Dieu puisse me choisir. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Mais Dieu a choisi de travailler avec des gens têtus. Cela devrait nous réconforter. Il n'a pas conçu son plan pour qu'il échoue. Dieu n'est pas un échec. Il accomplit ce qu'il s'est proposé de faire. Il a choisi les personnes les plus difficiles à cet égard, celles avec lesquelles il est le plus difficile de travailler, afin d'accomplir son plan. Frères et sœurs, nous devrions nous reconnaître là-dedans. Cela devrait nous réconforter, cela devrait nous revigorer. Dieu a choisi de travailler avec nous. Il choisit de travailler avec nous malgré nos défauts, malgré nos lacunes. Dieu ne travaille pas seulement avec des personnes naturellement faciles à vivre. Nous avons tous des aspects de notre personnalité qui sont naturellement faciles, mais nous avons aussi des domaines où nous nous obstinons. Pourtant, Dieu n'a pas choisi de travailler uniquement avec des personnes naturellement faciles à vivre, il travaille aussi avec des personnes têtues et difficiles. Il est disposé à le faire, il le veut, il veut le faire, manifestement dans un but précis. 2 Chroniques chapitre 30. 2 Chroniques chapitre 30. Verset 7. 2 Chroniques chapitre 30. Verset 7. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre le Seigneur de leur père, et que celui-ci a livré à la désolation, comme vous le voyez. Mais ne soyez pas à la nuque raide comme l'étaient vos pères, mais que devez-vous faire? Soumettez-vous au Seigneur. Si vous vous demandez, d'accord, nous ne voulons pas être à la nuque raide, mais alors, que voulons-nous être? Nous voulons nous soumettre au Seigneur. Au Seigneur. Dieu veut que les gens se soumettent à lui, qu'il soit facile à diriger quand on les tire dans certaines directions. Pour revenir à la référence aux animaux, facile à diriger. J'ai cette idée, cette image d'une personne qui a la capacité de dompter un cheval sauvage ou de dresser un chien sauvage. Il y avait un film, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, combien s'en souviennent? Je ne l'ai jamais vu mais je comprends un peu. Je crois qu'il y avait un cheval qui jouait la comédie, cet homme avait ses compétences et cette capacité à communiquer avec un cheval pour le calmer. Combien se souviennent de l'émission de télévision L'homme qui murmurait à l'oreille des chiens? Je connais très bien celle-là, je crois que c'est César Milan, et il avait juste ce don, vous voyez, le chien allait. Et il avait ce don, il arrivait, il regardait simplement le chien, et le chien se calmait. Je me disais, bon sang, cet homme a des pouvoirs magiques. Comment fait-il cela? Je m'amuse avec cela. Mais quand on pense à un horse whisperer ou à un dog whisperer, et à cette capacité à dompter un animal sauvage, un étalon sauvage ou un chien qui passe son temps à mordre les gens et à leur sauter dessus, cette personne qui a le talent et la capacité de rendre cet animal calme et de le maîtriser, c'est tout simplement incroyable à voir. Quand on voit que Dieu peut prendre une personne sauvage, comme nous l'avons tous été à certains moments de notre vie, et qu'il a la capacité de prendre une personne qui a besoin d'être domptée, si je peux employer ce terme, pour qu'elle devienne soudainement calme et facile à vivre, il y a peu de choses qui s'en comparent. N'importe quel pasteur vous dira qu'il y a peu de choses qui s'en comparent. Une personne avec qui il est facile de travailler, qui n'est pas du tout têtue ni intransigeante. Très difficile, très difficile. Dieu veut que nous passions d'un état de raideur, de rigidité et de rébellion, où nous ne faisons que ce que nous voulons, à un état où nous sommes très faciles à vivre. Je dois partager cela. Cela vient des Écritures, mais comme vous le savez, en préparant cela et en y réfléchissant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Balaam et à l'âne. Vous connaissez tous Balaam et l'âne, n'est-ce pas? Allons voir ce verset. C'est Nombre 22. Ouvrez à Nombre 22. Vous savez, penser à un âne, c'est un peu difficile de travailler avec lui. Parfois, on donne à certaines personnes des surnoms liés aux ânes parce qu'elles ne sont pas toujours faciles à vivre. Maisonnane est connu pour être quoi? Têtu. C'est assez courant, c'est une chose normale, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Bon, nombre 22, voyons si j'arrive à le trouver. Nombre 22. Et pour replacer le contexte, il y avait Balak, qui était le roi de Moé, et Balak avait peur, ou plutôt Balak craignait les enfants d'Israël. Israël avait remporté des victoires et mené des guerres, et avait vaincu tous les peuples, et Balak craignait que son peuple, les Moabites, ne soit également touché. Il voulait donc Balaam, et Balaam était en quelque sorte un prophète alloué, si l'on peut dire, un prophète mercenaire. Vous savez, c'était en quelque sorte un devin, il avait donc certains pouvoirs, et Dieu l'utilisait parfois d'une certaine manière. Balak voulait donc que Balaam maudisse les enfants d'Israël. Au début, Balaam voulait le faire, mais Dieu a dit, non, non, je ne te laisserai pas faire cela. Les choses ont continué, et Balaam est reparti. Il a pratiquement demandé à Dieu à nouveau, je dirais qu'il le suppliait, mais il demandait simplement à Dieu une nouvelle fois, et Dieu a dit, d'accord, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le, j'ai un but pour cela. Dieu, le Dieu de Dieu, poursuit en disant, reprenons au verset 21. En fait, je pense qu'on peut passer directement à la fin ici, une seconde. Oui, verset 21. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les princes de Moé. Dieu lui avait donc dit, tu peux y aller, et la colère s'est enflammée par ce qu'il y est allé. Et l'ange du Seigneur se tint en travers du chemin pour s'opposer à lui, disant, Or, il chevauchait son âne. Laissez-moi reprendre ici, Dieu se tint en travers du chemin pour s'opposer à lui. Or, il chevauchait son âne, et ses deux serviteurs étaient avec lui. Et l'âne en fait, vit l'ange du Seigneur debout sur le chemin. Il pouvait voir que l'ange du Seigneur se tenait devant lui, et Balaam, qui était sur son dos. Non seulement il se tenait là, mais il avait une épée à la main. L'âne pouvait le voir, et l'âne s'écarta du chemin et entra dans le champ. Balaam frappa l'âne pour le ramener sur le chemin. L'âne essaye de s'écarter du chemin. Balaam lui dit, Non, avance. Qui étais-tu maintenant? Verset 24. Mais l'ange du Seigneur se tenait sur le chemin des vignes, avec un mur de ce côté-ci et un mur de ce côté-là. Il se trouve donc dans un couloir étroit et essaie de s'en sortir. Et quand l'ânesse a vu l'ange du Seigneur, elle s'est jetée contre le mur et a écrasé le pied de Balaam contre le mur. Elle essaie de lui faire comprendre. On ne peut pas passer par là. Ce n'est pas dans ton intérêt qu'on continue. Mais Balaam la frappa de nouveau, et l'ange du Seigneur s'avança plus loin et se tint dans un passage étroit où il n'y avait aucun moyen de tourner ni à droite ni à gauche. Et lorsque l'ânesse vit l'ange du Seigneur, elle tomba sous Balaam, et la colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. Il ne fait que battre l'animal à ce stade, qui se montre têtu. Alors, que fit Dieu? Le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, Maintenant, l'ânesse parle. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes trois fois? Pourquoi me frappes-tu? Et Balaam répondit à l'ânesse, Balaam lui répondit sans détour, comme si tout était normal, parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée à la main, je te tuerais si j'en avais une. Si c'était une épée au lieu d'un bâton, je ferais le reste du chemin à pied. Et l'ânesse répond aussitôt à Balaam, Ne suis-je pas ton ânesse, ne suis-je pas ton fidèle animal de service, c'est moi qui ajoute cela, que tu montes depuis que je suis à toi, que je t'appartiens jusqu'à ce jour. N'ai-je jamais refusé de faire ce que tu me demandais de faire? Et Balaam répond, Eh bien non, en fait, maintenant que tu le dis, non, c'est plutôt inhabituel. Alors le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange du Seigneur debout sur le chemin, l'épée à la main. Et que fit Balaam? Il baissa la tête et tomba face contre terre. Oh, c'est pour cela que tu ne voulais pas que j'y aille, tu ne voulais pas avancer. Qui étais-tu dans ce scénario, mes frères? Cet homme était tellement têtu, tellement campé sur ses positions, qu'il ne reconnaissait même pas que son âne lui parlait. Il se contentait de rétorquer, « Oh oui !» L'entêtement peut fausser notre réflexion et notre jugement. Maintenant, avant d'aborder la manière de surmonter l'entêtement, je tiens à préciser très clairement que toute fermeté, j'ai abordé ce sujet plus tôt, mais je vais approfondir ici, toute fermeté, le fait de défendre quelque chose, n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. J'ai mentionné plutôt l'analogie du potier et de l'argile, qui est d'abord malléable mais finit par devenir ferme. Vous vous en souvenez? Être ferme et défendre quelque chose n'est pas mauvais. Il y a une grande différence entre être doux, malléable, et être sans caractère ou opportuniste. Parfois, les gens deviennent opportunistes. Ils disent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre. Éphésiens chapitre 6 Éphésiens chapitre 6 Éphésiens chapitre 6 verset 13 Éphésiens chapitre 6 verset 13 C'est pourquoi, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice. Nous lisons ici le récit d'un guerrier prêt à tenir bon et à résister avec fermeté. 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. En quoi, frères, devons-nous être fermes et inébranlables? Le contexte ici, c'est l'accomplissement de l'œuvre. Nous devons être fermes et inébranlables lorsqu'il s'agit d'accomplir l'œuvre. Frères et sœurs, nous devons défendre la vérité, même lorsque cela est inconfortable. Il y a une grande différence entre être ferme et être têtu. Si je devais mettre cela entre guillemets, je dirais que nous avons le droit d'être têtu pour la vérité. Têtu lorsqu'il s'agit d'accomplir l'œuvre. Ferme sonne un peu mieux. Certaines personnes cèdent quand vient le moment de défendre la vérité. Je suis tout à fait pour respecter le sabbat jusqu'à ce que mon patron me demande de travailler le samedi, sinon je serai licencié. Cette personne a-t-elle tenu bonne ou a-t-elle cédé? Je suis d'accord avec la dîme jusqu'à ce que mon loyer soit dû. Cette personne a-t-elle tenu bonne ou a-t-elle cédé? 1 Jean 4. Nous devons accomplir l'œuvre, suivre la vérité et rester inébranlables à ce sujet. Il y a une grande différence avec le fait d'être têtu. 1 Jean, chapitre 4. Verset 6 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Voici le point essentiel. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Frères et sœurs, nous devons savoir distinguer la vérité de l'erreur. Les apostats comptaient sur le fait que les gens ne sauraient pas faire la différence entre la vérité et l'erreur. Et cela a fait exploser l'Église. Dieu l'a permis dans un but précis, mais cela a fait exploser l'Église. Qu'ont-ils poussé les gens à faire des compromis sur la vérité? Ces gens n'étaient pas inébranlables. Ils n'étaient pas immuables. Ils étaient tout le contraire. Ils se sont repliés comme une couverture. Beaucoup d'entre vous ont vécu cela. J'ai entendu les récits. Ils se sont repliés. Ceux d'entre nous, beaucoup d'entre vous dans cette salle, beaucoup à travers le monde, étions inébranlables. Vous étiez inébranlables quand il s'agissait d'accomplir l'œuvre de Dieu, quand il s'agissait de la vérité. Vous étiez têtus, si je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets. La ténacité, c'est refuser de changer quoi qu'il arrive. L'inébranlabilité, c'est refuser d'abandonner Dieu et sa vérité. C'est très différent. Très différent. Il n'y a rien de mal à être ferme et convaincu sur les bonnes choses. Dieu veut simplement que nous soyons malléables entre ses mains, pas entre celles du diable ou du monde. Dieu veut que nous soyons malléables et modelables entre ses mains. Il est le potier. Nous sommes l'argile. Apocalypse 14. Apocalypse 14. En fait, vous savez quoi? Passons au chapitre 9 des Proverbes. Je veux prendre le temps ici de parler de quelques moyens de surmonter l'entêtement. Il s'agit ici de l'entêtement mauvais, pas du bon qui consiste à être inébranlable et immuable. Donc, chapitre 9 des Proverbes, je veux m'y attarder un peu. Chapitre 9 des Proverbes, la première façon, frère, de surmonter l'entêtement, c'est d'être disposé à apprendre, d'être disposé à apprendre. Chapitre 9 des Proverbes, soyez et restez disposés à apprendre. Proverbe 9, le verset 8, Proverbe 9, 8, ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne des instructions à un homme sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne un homme juste et il s'enrichira de savoir. Les sages acceptent la correction, ils l'acceptent. Les gens têtus ne l'acceptent pas, ils campent sur leur position. Frères et sœurs, si vous faites quelque chose de mal, que vous vous en rendiez compte par vous-mêmes ou que quelqu'un vous le dise, admettez-le simplement. Admettez-le simplement. Vous savez quoi? Je me suis trompé là-dessus. Je me suis trompé là-dessus. La dernière chose à faire quand on a commis une erreur, cela s'applique à moi aussi, la dernière chose à faire quand on a commis une erreur, c'est d'aggraver la situation en campant sur ses positions. Là, on aggrave les choses. Il suffit de l'admettre rapidement et de faire quoi? De passer à autre chose. On se trompe tous de temps en temps. En fait, soyez sages et faites quoi? Tirez-en une leçon. Soyez disposés à apprendre. Être ouvert à l'enseignement, c'est aussi céder rapidement. Nous avons parlé de céder, psaume 51. C'est la deuxième façon de ne pas être têtu. Céder rapidement, psaume 51. L'un des meilleurs conseils que j'ai reçus pour redevenir ouvert à l'enseignement, c'est simplement d'admettre quand on a tort. C'est tellement plus facile. En réalité, c'est dans votre tête, on a l'impression que c'est difficile ou que quelqu'un va penser ce qu'il pense. Il suffit de l'admettre et de passer à autre chose. Psaume 51. C'est David, et c'est après son péché avec Béthabée. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon tes bontés, selon la multitude de tes miséricordes. Efface mes transgressions. En d'autres termes, pardonne-moi, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Et voilà. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. Je lis cela ici, et on peut se demander à quelle vitesse David s'est repenti, a repris ses esprits et a compris qu'il avait mal agi. Je peux vous dire que David était un homme au cœur très tendre. Il était très facile de travailler avec lui, et il s'est soumis à Dieu rapidement. Je pense que c'est ce qui a fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Frères et sœurs, plus vite nous nous soumettons à Dieu, plus vite nous le faisons et plus profondément nous le faisons, plus cela permet à Dieu de nous tirer dans la direction où il veut nous tirer. Nous ne sommes plus obstinés. On peut travailler avec nous parce que nous avons fait quoi? Nous nous sommes soumis. Nous n'étions pas comme ce bœuf qui était si difficile. Si vous péchez, repentez-vous rapidement. Excusez-moi, quand vous péchez, repentez-vous rapidement de tout péché et de toute faute. Cela arrive. Si vous offensez votre frère, excusez-vous dès que possible, ne laissez pas traîner les choses. Plus vous laissez traîner, plus cela devient difficile. Numéro 3. Apprenez à séparer votre identité du fait d'avoir raison. Je ne veux pas que mon identité soit liée au fait que je doive avoir raison. Apprenez à séparer les deux. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait rien, comme il devrait le savoir. Nous l'avons tous entendu, quand on croit tout savoir, on ne sait rien. Apprenez à séparer votre identité du fait d'avoir raison. Les personnes têtues se retrouvent bloquées parce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles qu'elles sachent tout. Elles ne le formulent peut-être pas exactement ainsi, mais c'est ce que nous pouvons faire, tout le monde s'attend à ce que je sache. Si j'admets que je ne sais pas quelque chose, alors les gens ne me verront pas comme je voudrais qu'ils me voient, même si la plupart des gens peuvent deviner quand on ne sait pas c'est cela, c'est ce qui est étrange, ils ne le savent pas tout de suite, mais ils finissent par le découvrir. Apprenez à dissocier votre identité du fait d'avoir raison. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, la honte est de prétendre que vous savez. Et enfin, restez doux envers Dieu, souple envers Dieu. Psaume 139. Psaume 139. Pensez à la rigidité, le contraire de la rigidité, c'est d'être souple. Facile à vivre. Psaume 139, verset 23. Psaume 139, verset 23. Quelques versets ici. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, et vois s'il y a en moi une voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie éternelle. Demandez à Dieu, frère, demandez à Dieu de vous révéler vos angles morts. Cela demande du courage, car devinez quoi, il pourrait bien faire exactement ce que nous lui demandons, mais cela demande du courage. Dieu, montre-moi mes angles morts. Mais, frère, c'est l'un des meilleurs moyens d'éviter d'être à la nuque raide, d'éviter d'être têtu, d'éviter de camper sur ses positions. Demandez à Dieu d'identifier vos faiblesses et de faire quoi? De vous aider à vous en éloigner. Revenons à l'analogie des bœufs. Pour vous éloigner du danger. Mes frères, nous pouvons être fermes, convaincus et inébranlables sans devenir durs, sur la défensive et impossible à côtoyer. Il y a une différence. Être ferme, convaincu, inébranlable, sans être dur, sur la défensive et impossible à côtoyer. Alors que nous arrivons à la fin, ne confondez pas la dureté avec la force, ni la défensive avec la conviction. Ne confondez pas les deux. L'argile qui durcit trop vite devient impossible à travailler. Oui, elle finit par durcir, mais si elle durcit trop vite, il est impossible de la travailler et devinez quoi? Autant la casser et recommencer à zéro, comme nous l'avons vu plus tôt. Dieu veut que nous soyons fermes dans la vérité, mais accessibles, humbles et disposés à apprendre. Je le répète, Dieu veut que nous soyons fermes dans la vérité, fermes et actifs dans l'œuvre, mais accessibles, humbles et disposés à apprendre. Dieu ne recherche pas des personnes faibles. Il recherche des personnes disposées à apprendre. Il y a une très, très grande différence. Il y a la bonne sorte de fermeté, être inébranlable dans la vérité, sans faiblir dans l'obéissance, intransigeant face au péché. Mais il y a aussi une obstination très dangereuse, être têtu et campé sur ses positions, résister à la correction, s'accrocher à sa propre volonté, refuser de céder quand Dieu essaie de nous guider vers un meilleur endroit et de nous orienter dans une meilleure direction. Frères et sœurs, puissions-nous ne jamais devenir si rigides que Dieu ne puisse nous façonner, mais puissions-nous devenir si fermes que rien ne puisse nous détourner de sa vérité.